Interview.
R. Dubois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes des FM en 107.5 et sur le 101.7 à Luc en Dubois. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Vincent Paltera. Bonjour.
Et bonjour.
Vincent Paltera, tu représentes la Confédération paysanne au niveau de la Drôme.
Oui.
Et porte-parole, tu es ici aussi pour nous parler avant tout de la fête paysanne qui s'organise le 3 septembre à Recoubeau-Jansac. Ça se passera au Tas du Fumier et un événement qui commencera à partir de 14h jusqu'à une soirée tardive. Il y aura donc rendez-vous de découverte, d'échange, peut-être de conférences aussi. Enfin, on va écouter un peu le programme.
On a tout un programme prévu.
C'est une vitrine de vos actions, en quelque sorte, de partager aussi votre passion pour la paysannerie.
Ouais, bah c'est le cœur de notre métier de produire de l'alimentation pour nourrir tout un chacun. Donc c'est important, effectivement, quand on organise ces fêtes paysannes, d'organiser par la même occasion un marché qui permet aux gens de rencontrer en direct des paysans avec leurs produits. De toute façon, ces fêtes paysannes, c'est à la fois l'occasion de se retrouver entre confédérés, bien sûr, du département, mais aussi d'inviter tout un chacun à venir nous rencontrer, à parler de notre travail, à découvrir en fait qu'est-ce que l'agriculture paysanne, puisque à la Confédération paysanne, on défend un modèle de société en fait. C'est un projet de société, l'agriculture paysanne, donc on ne pourra pas le faire uniquement nous, entre paysans confédérés avec nos petits bras, et on a besoin de rencontrer les gens et de leur expliquer en quoi on est convaincu que ça sera une solution pour notre avenir.
En quelque sorte, cela va au-delà du producteur paysan et du consommateur.
Ça va au-delà, ça va même bien au-delà. C'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on organise systématiquement un moment de débat sur des thématiques, bien sûr toujours liées à l'agriculture paysanne. Et en l'occurrence, cette année, la thématique, c'est manger bio et local, c'est l'idéal. Et dans le Diwa, on en dit quoi ? Bon, c'est un peu une formule à rime pour que ça sonne comme ça, mais néanmoins, c'est une occasion qu'on a saisie avec la mise en place d'un plan alimentaire territorial en ce moment sur le Diwa, qui va nous permettre un peu de faire un état des lieux de l'alimentation diwaise et peut-être de remettre en cause un petit peu des idées reçues comme quoi la Drôme, premier département bio, le Diwa, Biovallée, tout ça. Ça donne une image qui est un peu une image d'épinal de la manière dont on va se nourrir sur nos territoires, alors qu'on a encore beaucoup de progrès, beaucoup de boulot à faire. Et notamment, ce plan alimentaire territorial qui est mené au niveau de la communauté de communes du Diwa va peut-être nous permettre de mettre en place plus de synergie avec nos instances dirigeantes, nos élus, de manière à prendre en main la problématique de l'agriculture en général, hein, pas seulement l'agriculture paysanne, parce que là, on est face à des défis majeurs.
Depuis les dernières élections à la Chambre d'agriculture, une présence de la Confédération paysanne, cela vous a-t-il permis d'avoir une meilleure oreille, une meilleure écoute dans votre combat ?
Alors la Chambre d'agriculture, effectivement, c'est important d'être représenté à la Chambre d'agriculture. C'est important de porter des voix, on va dire, différentes du modèle agricole standard qui est en vigueur, on va dire, à la Chambre d'agriculture, puisque c'est donc la Fédération départementale des exploitants agricoles, hein, la FDSEA, qui a remporté les élections et qui donc contrôle la Chambre d'agriculture, on va dire. Et c'est d'autant plus important que, en fait, en Drôme, on est quand même un département assez dynamique. Comme on disait tout à l'heure, le côté bio, le côté circuit court ou vente directe est bien représenté en Drôme. Et ça, je pense que c'est une chose qui infuse au fil des années aussi, pas uniquement grâce à nous, mais un petit peu aussi grâce au fait que ce message-là est porté jusque dans des instances qui, sinon, ignorent totalement ce genre de tendance, quoi.
On reviendra un petit peu sur cette problématique de l'agriculture en général et puis de celle de l'eau. On revient sur donc cette journée de la fête paysanne. Ça commence à 14h avec un village associatif. Alors, peut-on présenter ce village ? Qu'est-ce qu'on y trouve ?
Oui, on invite toujours toutes les associations amies à venir participer donc au village associatif, de même qu'on invite les paysans qui veulent à participer au marché. Parce que, comme je disais tout à l'heure, si on mène un projet de société, on doit le mener de front avec des partenaires qui vont défendre d'autres aspects du projet qu'on peut porter. C'est des synergies qui sont mises en place et à mettre en place donc avec le monde associatif qui est très très dynamique aussi.
Est-ce qu'on peut indiquer quelques associations qui seront présentes sur cet après-midi ?
Effectivement, donc il y a tout un faisceau d'associations, on va dire, qui sont en lien direct avec l'agriculture. Je vais les citer un peu en vrac sans assurer forcément leur présence, mais c'est des associations qui régulièrement travaillent avec nous et participent aux fêtes paysannes. On va avoir Agribiodrome pour la promotion des circuits agricoles paysans. On peut avoir des associations qui promeuvent l'agroforesterie. On peut avoir des associations comme la DEAR sont vraiment des associations sœurs de la Confédération paysanne et qui, elles, s'occupent en particulier de l'installation de nouveaux agriculteurs. Donc tout ça, c'est quelque chose qui porte nos problématiques via des associations dédiées. On a aussi l'association des Amis de la Confédération paysanne. Et des fois, on va élargir un petit peu aussi, notamment à l'international, avec Via Campesina, qui est une association internationale de défense des droits paysans. Plus largement, on a pu accueillir parfois la CIMAD ou des associations d'aide aux réfugiés. On a de toute manière une assez grande ouverture d'esprit sur les associations qui peuvent participer à nos événements. Il y a Artisans du Monde qui régulièrement vient aussi. Je crois que cette année, ils ont dit qu'ils ne seraient pas là parce qu'ils ont d'autres gros événements prévus. Mais oui, on essaye en tout cas d'être ouvert le plus possible.
Ensuite, en parallèle, le marché paysan hein, qui proposera les produits des producteurs locaux. On pourra y trouver toutes sortes de produits.
Oui, alors là, on essaye justement d'être relativement exhaustif sur l'ensemble des produits du terroir. Bien sûr, donc on recherche des maraîchers, on recherche des producteurs de viande, on recherche des gens qui font par exemple de la transformation de céréales aussi via des pâtes ou des farines et autres, des producteurs de fruits. On peut avoir des choses plus spécialisées aussi, hein, des champignons, on peut avoir parfois on a eu des producteurs de spiruline. C'est vraiment quand on travaille donc en amont la fête, on fait la liste de toutes les productions que tout le monde pense connaître dans le Diois et on essaye d'inviter au moins un producteur par production.
À l'heure actuelle, je ne sais pas si tu pourras y répondre, que peut-on estimer la production permet de nourrir combien de personnes dans le Diwa?
Et bien justement, ça va être l'objet du PAT, de déterminer dans quelle mesure la production diwaze locale nourrit les diwas et les diwazes. Pour le moment, en fait, ce que je peux dire, c'est que j'ai des chiffres au niveau de la Drôme qui sont de 85 à 90% des fruits et légumes importés. Alors que bon, on sait quand même qu'en Drôme, on est des gros producteurs de fruits, abricots, pêches notamment. J'imagine que dans le Diwa, c'est à peu près du même ordre d'idée. Il y a aussi une partie de la production diwaze bien sûr qui est exportée, notamment on sait l'importance de la clairette, donc une énorme partie des vins produits localement sont destinés à l'export. Je pense qu'on exporte aussi une bonne partie de nos noix. Mais on aurait un gros potentiel, je pense, de relocalisation en fait de notre alimentation, notamment dans le domaine de la céréale, parce que même si on n'a pas des rendements énormes dans le Diwa, on a par contre une céréale d'excellente qualité, notamment pour tout ce qui est transformation, farine, pâte, etc. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à réfléchir, parce que ça reste quand même une base de l'alimentation, hein, la céréale. Donc c'est des choses dont on va parler pendant le débat, notamment.
D'ailleurs, la céréale s'est énormément développée après-guerre. Et puis, dans les années 60, s'est opéré le remembrement qui a fait disparaître énormément de bocages, de haies pour établir des champs immenses. Est-ce que ce type d'agriculture productiviste n'a pas lieu ici dans le Diwa?
Bah, effectivement, à Die, on a été relativement préservé des grands remembrements, des grands arrachements d'arbres et de haies dans les champs. C'est vraiment encore très courant de voir nos champs dans le Diwa bordés de haies, de voir qu'on a laissé le noyer au milieu du champ, voire même des fois le mûrier, alors que potentiellement, économiquement, il n'y a plus aucun intérêt à avoir un mûrier au milieu de son champ. Ça, on va dire que c'est dû à une certaine conception de l'agriculture qui a perduré chez nos agriculteurs locaux. Et c'est dû aussi au fait que on n'a pas été, en tant que zone de montagne, un terrain très attractif pour l'industrie agroalimentaire, qui n'a donc pas trop poussé au remembrement, qui n'a pas trop poussé dans la rationalisation à outrance des productions agricoles ici.
On continue sur cette journée avec, pour les parents qui auront leurs petits, il leur est proposé une mini-ferme avec aussi des jeux de bois, des jeux en bois, une librairie spécialisée, une buvette, des crêpes et le traditionnel concours international de cagettes. On peut peut-être dire ce que c'est ce concours, en quoi consiste-t-il?
Alors c'est à la fois un exercice de force, d'équilibre, d'endurance et de vitesse qui consiste à empiler un maximum de cagettes et ensuite les soulever dans ses petits bras et faire un tour de piste le plus rapidement possible, bien sûr sans faire tomber les cagettes. Et à ce jeu-là, on a quelques champions locaux qui mériteront de remettre en jeu leur titre.
Ensuite, à 15h30, le débat. Donc, tu l'avais annoncé en début d'émission, manger local, c'est l'idéal. Et dans le Diwa, ça vous dit quoi? Alors, il y aura des invités, peut-être, pour discuter de ce sujet?
Oui, on va avoir plusieurs invités, notamment des gens travaillant dans des cuisines de collectivité, des cantines scolaires, qui viendront nous parler un peu de leur volonté de travailler en local et des difficultés qu'ils vont y rencontrer. On aura certainement un chercheur dont je ne me souviens plus le nom, mais qui viendra parler de, dans l'ensemble, les filières alimentaires locales. Et puis, bien sûr, on aura l'employé de la CCD qui réalise actuellement le diagnostic du PAT et qui nous exposera les données qu'elle a pu collecter jusqu'à maintenant pour qu'on ait la matière pour travailler.
D'autant que je crois que les captations de questionnaires sont terminées ou sont sur le point de l'être. Et il va y avoir une restitution durant l'automne, hein, je pense.
Oui, normalement, la restitution est prévue bientôt, dans l'automne. Et donc, il y aura l'autre phase du PAT, à savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce diagnostic et quelles sont les mesures qui peuvent être prises, que ce soit au niveau des communes ou de la communauté de communes en tant que telle, pour essayer de relocaliser au maximum notre alimentation, sachant que c'est à la fois un enjeu écologique, je pense que ça a été dit et redit, dépenser du pétrole pour importer des tomates de l'autre bout de la planète ou de l'agneau. Hein, par exemple, dans le Diwan, on est des producteurs d'agneau, mais l'agneau néo-zélandais arrive en France moins cher que l'agneau produit localement. Bon, ça peut sembler absurde, mais il se trouve que c'est comme ça. Donc peut-être qu'il y a des choses à réfléchir là-dessus.
Cette constitution de PAT qui est opérée avec des commissions hein, qui représenteront diverses représentations de la société, que ce soit les élus, les corps professionnels, le public. Est-ce que cette constitution telle qu'elle a été présentée fin printemps paraît être paritaire ?
Je pense que ça part en tout cas d'une bonne idée d'essayer de constituer des collèges de gens concernés par le sujet, de les faire travailler ensemble et ensuite d'essayer d'élaborer des propositions. Après, je dirais qu'une des problématiques, c'est que concrètement, qu'est-ce qui va en sortir ? Comme ce qui peut se passer parfois dans les consultations citoyennes ou dans la démocratie participative, on peut avoir du collectage effectivement au départ d'idées, de souhaits, d'envies des citoyens. Mais souvent, la mise en pratique peut parfois laisser à désirer, voire même tout ça peut se retrouver au fond d'un bureau sous une pile de dossiers. Donc j'espère que tout ça ira au-delà en fait, de la consultation et de la communication.
Donc à suivre précisément. Ensuite, à 17h, il y aura un spectacle de clown pour tout public. Quel est-il, ce clown ?
Je vais laisser la surprise, parce que c'est un tout nouveau spectacle en plus.
18h30, présentation du comité départemental. Donc je suppose que tu seras présent à ce moment-là, à ce rendez-vous.
Oui. Donc le comité départemental, c'est l'ensemble des confédérés qui ont décidé de s'engager un peu plus intensément dans le travail syndical. Donc je crois que cette année on est 12 pour ne pas dire de bêtises. On se réunit tous les mois et on traite l'ensemble des dossiers qui nous sont déjà portés à connaissance, que ce soit des dossiers destinés à aider des agriculteurs en difficulté d'une manière ou d'une autre, hein. Ça peut être beaucoup des difficultés administratives. Mais aussi parfois d'autres difficultés, des difficultés de problèmes dans le travail en tant que tel. On essaye de faire marcher les solidarités quand c'est possible. Là récemment, par exemple, il y a eu une ferme qui a brûlé à Beaumont, des maraîchers dont un des associés s'est cassé la jambe. Dans ce cas-là, on lance des souscriptions, on essaye de trouver des gens pour leur donner des coups de main et parer au plus pressé. Et puis, on a beaucoup de rapports aussi avec les instances représentatives ou pas d'ailleurs, de l'agriculture, à savoir la DDT, qui gère les dossiers PAC, qui gère aussi le côté installation aidée, la chambre d'agriculture, évidemment, la préfecture directement, quand c'est nécessaire, notamment comme cet été, avec les problématiques assez terribles qu'on a eues cette année de sécheresse. On a essayé d'interpeller la préfecture, avec plus ou moins de succès d'ailleurs, mais en tout cas on l'a fait.
On va y revenir. Ensuite, concert de la chorale, l'émeute, autour d'un apéritif. Ça sera à partir de 19h.
Oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas la chorale des meutes, c'est ce qu'on appelle une chorale révolutionnaire, donc basée sur un répertoire de chants de lutte, en fait. Chorale qui peut être à géométrie variable, mais j'espère qu'ils viendront nombreux pour se faire entendre. Et on est à la fois sur donc des chansons qui portent des messages et aussi des jolies harmonies, des jolies mélodies polyphoniques notamment.
Il y aura ensuite le repas paysan à 19h30. On pourra trouver tout type de produits. Est-ce qu'il y aura une carte avec différentes propositions ?
Alors, on n'est pas là pour faire restaurant. Par contre, c'est vrai que pour nous, c'est toujours très important, lors des fêtes paysannes, d'amener un repas digne de l'agriculture qu'on défend, en fait. Donc, au menu, qui sera un menu pas tout à fait unique, mais en tout cas menu simple, nous aurons des grillades à base de viande locale, agneau notamment. Il y aura des salades composées, du taboulé. Les desserts seront amenés par les différents confédérés ou d'ailleurs amis de la Confédération paysanne qui gracieusement voudront bien garnir notre table de dessert à partager. Et puis, bien sûr, pour ce qui est des boissons, on aura du vin local, de la bière locale, des limonades, du jus de raisin, du jus de pomme et tout un tas de sirops locaux à disponibilité.
Je reviens un petit peu sur les productions locales. Il y a cet aspect aussi de la transformation des produits. Est-ce qu'il y a un développement à faire là-dessus, dans ce domaine ? Je suppose qu'avec le PAT, non pas le PAT, le pacte alimentaire du territoire, il y aura une prise en compte de cette peut-être nécessité, justement, de manière à opérer plus d'autonomie aussi.
Eh ben, j'espère. J'espère qu'en tout cas, il y aura une prise en compte, une réflexion et certainement, si possible, des actions derrière ça, parce que c'est assez difficile, assez lourd, de manière individuelle, de monter un projet, s'équiper pour de la transformation. Ça l'est déjà un peu moins quand plusieurs paysans vont se regrouper et mettre ça en place à plusieurs, donc un outil utilisé en commun. Mais je pense que dans ce genre de projet, effectivement, les collectivités locales, les instances territoriales ont un réel rôle à avoir, comme le rôle d'ailleurs qu'ils ont pu tenir via l'abattoir du Diois, qui a déjà quelques décennies de fonctionnement et qui est très important pour l'élevage local. De la même manière, je pense que des structures pourraient être portées de manière mixte par des paysans qui souhaiteraient transformer de manière à mettre à disposition localement leurs produits et les collectivités locales qui pourraient faire à la fois un portage administratif, financier et toutes les compétences qu'ils savent déployer dans ces cas-là.
La soirée débute à 20h30 avec un concert des Los Fagiolis. C'est de la musique andine et tarentelle, musique folklorique en quelque sorte.
Oui, donc que ce soit les tarentelles, la musique andine et aussi des musiques mexicaines. Tout ça, c'est des musiques populaires principalement issues en fait des cultures paysannes. Que ce soit d'Italie ou d'Amérique, en l'occurrence. Et on a une formation avec, si je ne me trompe pas, guitare, accordéon, basse-batterie. des choses très dansantes et qui peuvent être aussi l'occasion de découvrir des musiques qu'on n'a jamais entendues auparavant.
Tu connais peut-être la signification de Los Fagiolis ? Non. C'est un groupe, tu peux en parler un peu ou...
Un petit peu.
Oui, ils sont combien ?
Ils sont quatre. Donc, il y a basse, batterie, guitare, accordéon.
Et puis à la suite, à 22h, DJ Monette Wawa, qui était passé par chez nous il y a quelques années, qui propose donc un set avec du rock'n'roll et du rhythm and blues. Et j'imagine que c'est elle qui va terminer cette soirée.
Oui, oui. Donc on sait que DJ Monette est capable de nous emmener jusqu'au bout de la nuit si le public en a envie. Donc on compte sur elle pour nous faire danser jusqu'à plus soif, on va dire.
Là, est-ce que vous avez besoin de bras encore pour préparer cette fête et comment peut-être s'inscrire pour le faire ?
Alors, jusqu'ici, on avait mis en place à la fois un tableau donc qu'on a envoyé par mail à tous nos adhérents ainsi qu'aux gens potentiellement qui s'étaient déjà proposés pour donner un coup de main, dans lequel ils pouvaient s'inscrire pour les différentes tâches. Si vraiment il y a des gens qui sont motivés, ils peuvent aussi se présenter, on va dire, vers 12h au tas de fumier, dans la mesure où ils n'auraient pas reçu le mail en amont. Et on aura des plannings pour inscrire chacun dans les tâches qui seront nécessaires d'être accomplies.
Et puis, vous sollicitez aussi la générosité du public, hein, qui pourrait amener des dons, des prêts et bonne préparation de gâteaux.
Alors effectivement, comme je disais tout à l'heure, les gâteaux, donc, c'est à la générosité des participants et notamment des adhérents de la Confédération Paysanne. C'est un peu une tradition aussi que chacun amène des desserts. Et puis, donc on aime bien aussi faire des petits cadeaux aux gens qui viennent nous aider et qui prennent beaucoup de temps quand ils ne sont pas directement adhérents à la Confédération Paysanne. Donc on offre en général des filets garnis par les paysans locaux. Donc c'est pour ça qu'il y a un appel à dons. Et donc on peut bien préciser que l'entrée de la fête, du concert, tout ça est gratuit, ouvert à tous. Et après, on a une petite cagnotte que chacun peut garnir à sa convenance à l'entrée pour soutenir à la fois les musiciens, l'organisation de la fête et l'agriculture paysanne.
Je reviens à la sécheresse. Il y a quelques jours, un article dans Le Monde est paru, écrit par Nicolas Giraud et qui s'intitule « Pour anticiper la raréfaction de la ressource en eau, il faut transformer le système agricole ». Voilà, et donc il y a un texte à lire sur cette remise en cause, cette remise en forme de l'agriculture. Je voulais savoir, au niveau de la Chambre d'agriculture, est-ce qu'il y a eu une prise de conscience de cette problématique de l'eau à l'heure actuelle ?
Je pense qu'avec une sécheresse comme celle-là, personne ne peut ignorer complètement la problématique. La prise de conscience, elle est présente, mais limitée à la non remise en cause du modèle. C'est-à-dire que c'est des prises de conscience un bout de sparadrap par-ci, un bout de ficelle par-là, en ignorant complètement... D'après mon avis, et je pense rejoint en fait l'avis de la Confédération Paysanne en général, qui est que le système à l'heure actuelle n'est plus viable. D'ailleurs, il n'a jamais été. Mais là, réellement, on est face à des impasses majeures, parce que ce genre de sécheresse est réellement exceptionnel à l'heure actuelle. Mais d'après les prévisions de changement climatique qu'on peut consulter à l'heure actuelle, ça risque de se reproduire. Et là, on est sur des régimes de pluie qui vont complètement bouleverser les possibilités de produire, par exemple, du maïs. En France, 50% de l'eau consommée en agriculture l'est par le maïs. Donc, est-ce que vraiment il faut continuer à produire du maïs, à nourrir nos bêtes avec du maïs, à exporter du maïs? Parce qu'il y a des gens en France qui exportent encore du maïs. C'est pas pour jeter l'opprobre sur les producteurs de maïs ou sur une plante en particulier, mais on a en tout cas à réfléchir sur la pertinence, par exemple, d'accorder autant d'eau pour produire un hectare de maïs qui va rapporter entre 800 et 1000 euros par an, qu'à un maraîcher qui va utiliser à peu près la même quantité d'eau, mais qui va générer entre 30 et 40 000 euros de chiffre d'affaires. Ce n'est pas que je veuille absolument remettre tout ça sous la perspective économique, mais on est face à des gouvernements qui brandissent à chaque fois la viabilité économique comme argument massue pour décider de toute leur politique. Là, il se trouve que l'argument massue, bizarrement, ils l'ont caché derrière leur dos et ils préfèrent perpétuer un système dont ils savent pertinemment qu'il va aller dans le mur. Pourquoi ils font ça ? Pourquoi ils font ça ? Parce qu'il y a des gros profits à l'heure actuelle qui vont à peu près toujours dans le même sens, et que ces profils-là, c'est difficile de les remettre en cause. Et en fait, il y a aussi un projet d'agriculture 3.0 que M. Macron nous a présenté il y a 2 ans de ça. Et ce projet d'agriculture 3.0, en fait, va représenter la mort de l'agriculture familiale qui était menée en France jusqu'à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on va sacrifier en fait encore d'ici à 10 ans, aller au moins 50% des exploitations agricoles, comme ils disent, présentes sur le territoire français. Les meilleures terres vont être accaparées par des firmes, par des multinationales, par des gens qui ont les moyens d'investir effectivement dans cette agriculture 3.0. Et le reste va soit servir de compensation carbone, soit servir à créer des vitrines vertes pour dire, mais regardez, on fait quand même de l'agriculture verte, entre guillemets, quoi.
Peut-on craindre ce type d'agriculture dans le Diois à l'avenir ?
Alors, le potentiel industriel, comme on l'avait dit, d'agriculture industrielle dans le Diois, je pense qu'il est déjà saturé, on va dire, à moins que d'un seul coup, la planète entière va lui manger de la viande d'agneau. À savoir que notre grosse production, bah, c'est la clairette, et que là, on est quand même sur un relatif plafond. Pour le reste des productions agricoles, les territoires de montagne avec des vallées étroites, des champs en pente, c'est pas très très couru par les grosses firmes industrielles.
De nos jours, est-ce que la Confédération paysanne prend conscience aussi, a pris conscience d'ailleurs de cette problématique de sécheresse qui va se répéter dans les années à venir, hein, on l'imagine. Est-ce que ça remet aussi quelque part une mise en question de votre type de production vis-à-vis de l'eau, justement? Est-ce que vous allez devoir repenser aussi à une autre manière de cultiver ?
Bah, à la fois oui, à la fois non. C'est-à-dire qu'une sécheresse comme celle-là, personne ne pensait que ça pouvait arriver, en vérité. Personne ne pensait que ça pouvait arriver. C'est-à-dire que là, on a des déficits de pluie de plus de la moitié de ce qu'il aurait dû tomber depuis le début de l'année. Plus de la moitié, quoi. On est à des niveaux plutôt de pluviométrie nord-africain que de zones alpine méditerranéenne, quoi. Donc effectivement, ça nous donne à réfléchir, ça nous incite à pousser encore plus dans des logiques d'économie d'eau et d'adaptation des cultures aux exigences donc du climat, en l'occurrence la sécheresse, du terrain, sur quelle terre on travaille quoi, et d'accès, en fait, d'accès à la terre, quoi. Mais d'un autre côté, c'est pas d'hier, en fait, que cette problématique est prise en compte à la Confédération paysanne. On a beaucoup entendu parler, par exemple, de la problématique des mégabassines. Les mégabassines, donc, c'est des espèces de piscines géantes qui sont construites principalement dans la moitié ouest de la France. Donc qui font plusieurs dizaines d'hectares de surface, plusieurs mètres, voire dizaines de mètres de profondeur, et qui vont pomper dans les nappes phréatiques ou dans les rivières, de manière à obtenir des réserves d'eau suffisantes pour pratiquer de l'agriculture industrielle, au bénéfice d'une poignée en général d'agriculteurs. Et tous ces travaux-là subventionnés à une hauteur de 60% à peu près par l'État. Donc c'est ce genre de choses qu'on combat quand même depuis très longtemps. Là, ce qu'on aimerait, en fait, c'est que cette sécheresse historique permette justement une remise en question de ce genre de façon d'envisager l'agriculture, de ce genre de modèle, alors qu'en fait, beaucoup vont prendre prétexte de ce genre de sécheresse pour en remettre une couche dans ce genre d'installations qui sont éminemment dommageables à l'environnement et qui sont éminemment dommageables à l'agriculture en général, puisque on crée des espèces de monstres productivistes de manière complètement artificielle et qui ont tendance à écraser en général le paysage agricole local.
Et ça sera l'occasion de revenir pour les suites données avec ce projet alimentaire territorial. Cette soirée donc se terminera après minuit, j'imagine.
Elle se terminera à peu près quand...
Quand tout le monde sera fatigué.
Quand tout le monde sera fatigué, ouais.
Le covoiturage est encouragé, j'imagine, aussi.
Oui, covoiturage encouragé au maximum, bien sûr. Il y aura des espaces parking prévus, mais évidemment, si les gens peuvent économiser un peu à la fois du carburant et de la place de parking, ça nous arrangera bien.
Vincent Paltara, je te remercie d'être venu sur RDIWA. On peut retrouver aussi l'actualité de la Confédération paysanne de la Drôme sur le site. Hein.
Oui, il y a un site de la Confédération paysanne de la Drôme et un site de la Confédération paysanne nationale.
Bonne soirée à toi.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Hello.